voix nue. Toute cette semaine, de lundi à vendredi, Camille Jusa rencontre Mathalie Crasset. Ce soir, de l'objet à l'architecture, question d'échelle. Mathalie Crasset, bonsoir.
Bonsoir.
Ce soir, quatrième volet de notre conversation débutée lundi dans votre appartement, ici dans le quartier de Belleville à Paris, votre appartement qui est aussi votre agence. Vous êtes designeuse, une designeuse assez singulière et pas seulement pour cette coupe à la Jeanne d'Arc qui vous caractérise, mais aussi parce que votre travail s'étend bien au-delà des objets ou même du mobilier. Alors hier, nous avons évoqué votre rapport aux objets et vous nous disiez à quel point vous regrettiez que la plupart des meubles figent nos intérieurs et les espaces dans lesquels on vit. Rien de pire pour vous que ce canapé et cette table basse qui encombre la plupart de nos salons. Et on a bien compris que la question de l'espace occupait une grande place dans votre travail. Sur et avec les objets. Alors ce soir justement, on change d'échelle, puisque nous allons parler de scénographie et d'architecture intérieure, lesquelles arrivent très tôt en fait dans votre parcours. Et en guise d'introduction, je me demandais justement comment on passe de la conception d'objets petits, relativement petits, on l'a dit, hein, un verre, une lampe, un fauteuil, à tout à coup des espaces plus grands. Parce qu'évidemment, vu de l'extérieur, ça apparaît pas complètement relevé des mêmes modes opératoires.
C'est en même temps la même chose, parce que ce qui m'intéresse, c'est la vie. Donc en fait, la vie avec l'objet, la vie avec l'espace, c'est toujours la vie. Et c'est en fait autour de ces rituels que je vais reconstruire ou en tout cas matérialiser un espace, tout comme je vais figer de la matière pour faire un objet. Donc pour moi, il n'y a pas vraiment de différence. Il y a juste une différence de peut-être complexité, quoique un objet peut être aussi très complexe, un objet électronique, il est dessiné vraiment au millimètre, donc oui, non, il n'y a pas de différence.
Et en fait, en 1997, alors que vous n'avez pas encore ouvert votre studio, vous imaginez la scénographie d'un salon de mode, un salon de jeunes créateurs, Who's Next, et c'est d'ailleurs à partir d'un objet que vous allez concevoir tout ce salon et toute la scénographie de ce salon.
Oui, j'ai été invitée par Xavier Clergerie. À l'époque, c'est quelqu'un de très curieux. Donc, quand il a vu les objets, et notamment la modularité de mes objets, il a pensé que ça pouvait être intéressant de l'appliquer au salon en entier et particulièrement un espace de convivial. Et donc, j'ai proposé comme dispositif, en fait, d'empiler des poufs qui sont faits avec les sacs tati, donc qui permettent justement de bien être pris en main. Et enfin, vous voyez, ces sacs qui sont quadrillés. Et une grosse pile comme ça à l'entrée de l'espace, en proposant aux gens d'en prendre un ou deux, les visiteurs, et puis de s'installer un peu à leur guise. Donc j'aime beaucoup cette idée d'appropriation. Et cet objet, qui s'appelle le sac digestion, justement, est devenu en fait un objet récurrent dans tous mes projets, puisque c'est justement une alternative à ce canapé encombrant, mais aussi monolithe, qui nous dicte en fait une conduite. Là, on va pouvoir s'allonger, s'asseoir, partager. Si on a peu de place, on va simplement l'utiliser en pouf. On va pouvoir utiliser un des poufs pour mettre un plateau dessus et on va simplement créer son espace plutôt que de le subir. Donc c'est vraiment aussi le départ de ma volonté d'inscrire cette idée de trouver des nouvelles logiques de lieu avec ce sac qui après a eu sa propre vie, puisqu'il a même servi à un moment donné pour faire une manifestation à Vienne contre la montée de Haider en fait. Et donc on a fait un sitting avec ce sac par exemple à Vienne.
C'est-à-dire que le sac est devenu l'emblème.
Oui, mais tout seul, en fait, mais sans que je le propose. Ce sont les gens qui ont pensé que ça pouvait devenir un emblème, voilà, pour lui faire porter des messages particuliers.
Est-ce que c'était évident d'investir justement tout un espace d'un salon comme ça? Alors évidemment, c'est temporaire, hein, c'est pas, et on voit bien comment ça peut marcher avec l'idée du sac tati, qui est plutôt un objet pauvre, etc. Mais est-ce que c'était impressionnant, toute jeune comme ça, d'investir un espace plus grand?
Non, c'était pas impressionnant. Ce qui m'a marqué, c'est cette confiance qu'on me faisait à un moment donné. Et en fait, c'est ce qui marque un peu tout mon trajet. C'est-à-dire que j'ai rencontré des gens formidables qui, à un moment donné, ont cette curiosité de penser que on peut faire confiance en fait en la création, on peut faire confiance en la démarche d'une personne pour l'appliquer sur quelque chose qui n'a pas été fait et de regarder ce que ça donne parce qu'on est en bonne intelligence. Donc ce sont des bons commanditaires qui vont poser les bonnes questions et qui vont me permettre en fait d'exercer mon métier à 100%, même quelquefois un peu même plus que 100% si ça peut exister.
Alors en 2001, vous rencontrez deux hôteliers,
oui.
Patrick Éloirgui et Philippe Chapelet. Et là, va s'engager une collaboration assez longue. Et là, on sort du temporaire
oui.
et des salons d'exposition.
Oui.
Et vous faites du dur.
Oui.
Vous faites un hôtel.
Oui, oui. Mais tout aussi expérimental, puisque l'idée, c'était vraiment ça. C'est comment, en fait, on arrive à créer, en quelque sorte, des déclics et des envies de changement. Et peut-être que l'hôtel, c'est le meilleur endroit pour le faire, parce que on l'a vu, l'espace domestique est assez figé. Il y a une inertie énorme. Par contre, un hôtel, on va y rester une journée, deux journées. Donc, on peut essayer les choses plus facilement. Et c'est pas justement en faisant quelque chose de domestique dans un hôtel qu'on va être intéressant. Au contraire, c'est proposer une autre façon de vivre et montrer qu'il y a une multitude de façons de vivre. Et quand on va l'expérimenter dans sa chambre, déjà, puis dans la façon de vivre ensemble dans les espaces communs, parce que ça, c'était très important pour nous aussi, c'était d'avoir des grands espaces communs. En fait, l'idée, c'est on va changer d'avis, puisqu'en fait, en essayant, on va comprendre ce que l'espace apporte et ce que la logique peut apporter, la nouvelle logique à la vie quotidienne, tout simplement.
Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que l'hôtel devient une sorte de laboratoire, on vient tester
des choses. Tout à fait, c'est un laboratoire, on travaille pour les curieux. Donc ça, c'est formidable, parce qu'un curieux, il va être curieux de la vie, mais il va être gourmet, il va essayer des choses au niveau culinaire, il va essayer des choses au niveau de l'espace, il va être curieux de l'autre aussi. Donc on va avoir dans cet espace une ambiance très particulière. Et d'ailleurs, c'est devenu, là encore, une communauté. C'est-à-dire des gens qui sont revenus et qui, après, sont allés dans d'autres hôtels I que nous avons fait ensemble avec Patrick et Philippe. Donc, ça a vraiment fonctionné. Ça a eu aussi des conséquences, je pense, chez certains, dans leur façon de faire évoluer leur espace domestique. Mais ce n'était pas vraiment le but. Au moins, de créer cette ouverture, cette petite onde de choc qui fait que de remettre en question notre façon de vivre et surtout avoir une emprise avec notre environnement.
Il faut le décrire, ce e-hôtel
oui,
à Nice.
Ouais.
Par exemple, ce qui est très frappant, c'est que vous n'hésitez pas à mettre une douche au milieu de la chambre.
Voilà.
Alors aujourd'hui, on voit des hôtels, design, oui. etc. Mais en 2001, 2003, c'est hyper nouveau.
Voilà. Oui, oui, non, parce que l'important, c'est l'espace. Et l'important, c'est de pouvoir y bouger. Tout l'espace est important, même l'espace de la douche. Après, la limite d'intimité, elle va se jouer quand on en a besoin. Et ça, c'est un principe que je continue à garder, même quand je fais des maisons. Je pense que c'est vraiment ça. C'est pas qu'on n'a pas d'espace, c'est qu'on s'oriente dans des organisations d'espace qui nous fait gâcher l'espace, en quelque sorte. Et donc, en fait, on a 9 concepts de chambres qui proposent une diversité de vécu. Mais ce qui va être aussi intéressant, c'est qu'on va pas proposer ça pour la suite ou la chambre qui va être la plus chère. Non, même la chambre la plus accessible dans l'hôtel va avoir un vrai concept qui repose, en fait, non pas sur un esprit décoratif, mais sur une façon justement d'organiser l'espace. Donc, est-ce qu'on met l'espace, par exemple, une des chambres, l'idée c'est d'avoir rien qui dépasse 30 cm. Et là, donc, j'ai créé une terrasse et on vit sur une terrasse. Et là, on s'aperçoit que d'un seul coup, on respire, même si l'espace est le même. On n'a rien qui monte en vertical. Il suffit en même temps de compléter avec un petit peu de bleu ciel. Et d'un seul coup, on a l'impression que l'espace s'expande. Vous voyez, c'est des choses très simples. En même temps, on va avoir une barrière végétale, donc du vrai végétal pour se doucher, pour retrouver cette limite d'intimité dont on vient de parler. Et voilà, le tour est joué. Et cette chambre fait l'unanimité. C'est-à-dire, c'est la chambre que tout le monde aime, parce que, certes, c'est construit différemment, mais tout le monde s'y retrouve, parce qu'on connaît déjà, en fait, cette structure.
Comment vous avez pensé dans cet hôtel les espaces communs ? Parce qu'en effet, il y a
oui.
les chambres, mais un hôtel, c'est un lobby, évidemment, mais c'est aussi des espaces de travail pour,
oui.
pour les gens qui y travaillent. Il y a tas de choses
Le lobby, c'est très important. Déjà, on ne va pas vous porter votre valise quand vous arrivez, parce que ça veut dire que vous jouez un rôle. Et ces hôtels, en fait, un peu haut de gamme, c'est souvent le cas. Hein, et nous, on n'a pas envie de ça. On a envie de... Si on veut que les gens expérimentent, il faut qu'ils soient eux-mêmes. Et donc, il faut qu'ils quittent un petit peu justement leurs habitudes, qu'ils les laissent un petit peu à l'entrée de l'hôtel. Et donc, l'accueil est très important et le lobby est très important parce qu'on va, dans un premier temps, donner un peu tous ces... Alors, ce sont des règles qui ne sont pas du tout, comment dire, les règles de jeu, hein, plutôt, qui ne sont pas du tout exprimées, mais qui se sentent, en fait, par une succession de petites actions comme ça. On comprend dans quel espace on arrive. Je n'ai pas voulu mettre de comptoir pour dire il y a d'un côté les gens qui travaillent, d'un côté les gens qui arrivent. Et bon, ça, maintenant, c'est aussi quelque chose qui devient récurrent dans les hôtels. Mais tout ça, c'est basé sur une logique assez simple. Et c'est pas non plus accueillir à la maison, puisqu'on est dans quelque chose qui est très contemporain et qui a sa propre façon de fonctionner. Donc, en fait, l'idée, c'est de casser les codes de l'hôtellerie qui se sont, en fait, complètement resserrés, les codes internationaux aussi qui se sont un peu mélangés pour en faire quelque chose de complètement insipide. Non, là, l'idée, c'est de... Quand on arrive, on a une surprise. Quand on arrive, on voit une espèce de nacelle suspendue sur lequel on peut se poser, bien sûr. Vous voyez, qui est, en fait, aussi une œuvre qui est faite avec un artisan, parce que pour montrer aussi que ces hôtels, en fait, et notamment les hôtels à Nice, sous la Côte d'Azur, il y avait toujours une espèce d'œuvre, hein, artisanale très forte à l'époque, du début du siècle. Donc, on pouvait aussi faire ça aujourd'hui et proposer, en fait, des structures qui sont de bonne facture et qui, en même temps, proposent l'émerveillement et fait que, d'un seul coup, on est dans un autre espace et qui, en plus, va permettre de se retrouver ensemble autour d'une boisson ou d'une collation.
C'était pas anodin d'être à Nice, d'ailleurs, pour vous.
Non, c'était pas anodin, puisqu'en fait, l'idée, c'était de défendre la culture contemporaine, et notamment la musique électronique, qui était pas très représentée à Nice. Et ça, c'est important aussi. Chaque fois, les hôtels qu'on fait avec Patrick et Philippe, il y a l'hôtel, bien sûr, qui est le lieu pour créer, en quelque sorte, une communauté, mais en même temps, cette communauté au service de quelque chose qui est plus large. Et là, en l'occurrence, c'était permettre de faire une interaction très très forte avec tous les organes en fait qui défendent le contemporain, la Villars-Son ou sur Nice et qui sont un peu fragilisés, qui étaient un peu fragilisés à l'époque, et en même temps pour le e-hôtel, défendre la culture électronique. Et ça a pu s'amplifier avec la création de la e-beach, la plage, où là on a pu vraiment faire des festivals à grande échelle pour défendre cette musique.
Alors vous avez travaillé, on l'a dit, hein, pour la grande industrie, Thomson, Ikea, vous avez travaillé pour des multitudes de marques comme Seb, Orangina, Dunlopillo. Là, c'est la première fois que vous vous retrouvez avec des commanditaires privés. Qu'est-ce que ça change quand on est designer, cette collaboration, et comme ça, c'est avec juste deux personnes, en fait?
Ça change pas grand-chose, ce sont des... Bizarrement, les gens avec qui je collabore aussi dans l'industrie, c'est souvent des gens éclairés, des gens qui décident de passer à l'action. Donc c'est pas vraiment. Donc j'ai un peu cette de chance de catalyser les gens qui ont envie de passer à autre chose. Mais ça, je pense que j'ai fait l'effort de montrer que mon travail était autour de ça. Et donc maintenant, c'est un peu évident qu'on vienne me proposer ce type de travail. Avec Patrick et Philippe, ce qui est assez fort, c'est qu'on a évolué ensemble. On est un peu je dirais, même si c'est un peu présomptueux de faire ça, c'est un peu l'équivalent de la collaboration entre Demi et Legrand, par exemple. C'est-à-dire que on fait 1 + 1, ça fait 3 et ça fait pas 2, tout simplement. Il y a une espèce de mélange qui va beaucoup plus loin, oui, et qui continue encore avec les projets de la Dari, par exemple, en Tunisie.
Alors justement, la Dari, en 2010, là, vous montez encore une marche, c'est-à-dire que là, vous construisez les murs carrément, parce que là, hôtel existait déjà. Hein.
Oui, c'était
là,
une rénovation.
Vous avez tout
dessiné. On l'a bien modifié, le bâtiment. D'ailleurs, on ne le reconnaissait pas. Les gens qui l'avaient visité avant ne le reconnaissaient pas. Là, oui, c'est une construction, donc ça donne plus de possibilités. On peut articuler les choses plus amplement.
C'est aux portes du désert, en Tunisie.
Oui, c'est en Tunisie. C'est dans le sud de la Tunisie, près de Tozeur, une petite ville qui s'appelle Nefta, qui est assez intéressante parce qu'en fait, elle n'a pas été touchée par le tourisme, contrairement à Tozeur. Et l'idée, c'est de se poser sur cette oasis, en fait, la corbeille, et en fait on vient se poser juste en haut, puisque l'idée c'est de faire une retraite, hein. C'est pas, donc on parle pas d'hôtel, c'est une toute petite capacité. L'idée c'est des immenses espaces communs, c'est plutôt pour lâcher prise, c'est l'hospitalité et la sérénité en même temps qu'on propose, et en même temps c'est super beau de le faire dans un lieu comme Nefta, puisqu'en fait c'est l'oasis, c'est en fait il y a une espèce d'équilibre entre l'homme et le et le lieu, l'un dépend de l'autre. Et ça, c'est très beau à voir, en fait. On a un peu oublié ça. Et l'oasis, on peut le voir, on peut voir au jour le jour, puisqu'on est, en fait, à la fois dans la ville, mais un petit peu, on surélève la ville. Et puis surtout, on peut sortir de l'hôtel et aller directement dans cette ville pour voir la réalité des choses.
Mais moi, je me pose une question toute bête, c'est-à-dire que vous êtes designer au début. Comment vous commencez à dessiner des plans d'architecte? Est-ce que vous prenez un collaborateur? Comment ça se passe? Comment on devient
architecte? Non, on est tous des designers, en fait. Après, il va y avoir un architecte opérationnel qui va suivre le chantier sur place. Et ça, c'est important parce que en Tunisie, c'est compliqué. Hein. On a construit l'hôtel pendant 2 ans. Mais c'est assez court, en fait, par rapport au projet qu'on a fait. On a eu la chance parce qu'on a ouvert juste avant la révolution, donc on n'aurait pas pu le finir sinon. Je considère pas que c'est compliqué. En fait, le plus compliqué, je pense, c'est peut-être d'arriver à faire un projet singulier. Et ce projet singulier va forcément, là encore, nous mettre en présence de constructeurs, parce que là, c'était également l'idée de vraiment travailler avec des artisans locaux, avec un entrepreneur tunisien, qui ont envie de participer à l'aventure. Donc, comme c'est singulier, en fait, on va forcément s'entourer de gens qui ont envie de changer un petit peu leur pratique ou d'apprendre quelque chose avec le projet et pas simplement de gagner de l'argent avec le projet.
Quels architectes vous inspirent? Est-ce que vous avez, comme ça, vous, dans votre paysage, des gens qui vous ont inspiré, ou pas forcément d'ailleurs, mais qui sont des références pour vous?
Moi, j'aime bien Oscar Niemeyer. C'est vraiment l'architecte que je préfère, puisque j'aime bien la dimension humaine de ce... Et j'aime bien, en fait, quand je fais référence à quelqu'un, ne pas pouvoir dissocier entre la partie entre l'homme et son œuvre, en fait, et Niemeyer, c'est vraiment entremêlé et très fort. Donc il a aussi utilisé le béton. On peut faire le meilleur et le pire avec le béton, et lui, il a bien sûr réussi à faire le meilleur. Et je trouve que son architecture est très lisible et très accessible. Et c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est en utilisant des symboliques, en utilisant des formes assez simples, il a réussi à donner une lecture pour tout le monde, sans que ça soit vraiment intellectualisé. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est assez rare.
Dans les années 60 et 70, il y a des architectes comme Jean Balladur à la Grande Motte ou Charlotte Perriand avec la Station des Arcs qui ont une vraie réflexion sur l'architecture des loisirs, hein, et notamment les vacances pour le plus grand nombre. Vous, au XXIe siècle, qu'est-ce que vous aviez envie de défendre avec un lieu de vacances comme ça?
Alors, l'idée, c'est vraiment de s'insérer dans le lieu et de, contrairement aux tour opérateurs qui agissent actuellement dans cette partie de la Tunisie, dans la Tunisie en entier, en général, on vient se poser un jour, on descend même pas dans la Palmeraie et on repart et on va se poser autre part. Là, l'idée, c'est vraiment d'y rester 4 jours minimum, sinon ça ne fonctionne pas. Mais déjà, au bout de 2 heures, on lâche prise, en fait. Ça fonctionne très bien. Et surtout, de proposer, là encore, le fait de le faire ensemble. Donc on est dans une petite échelle et on va petit à petit, là aussi, lier des contacts avec les gens qu'on ne connaît pas, qu'ils soient français ou tunisiens, et on va aller faire les choses ensemble. Alors j'ai des dispositifs assez simples où en fait on a des petites tables séparées, mais il y a aussi une énorme table d'hôtes au milieu de l'espace, et finalement on s'aperçoit qu'à la fin de la semaine tout le monde est sur la grande table d'hôtes, et ça fonctionne comme ça vraiment. Les adresses s'échangent à la fin, et souvent les gens deviennent des amis, donc ça fonctionne. On a découvert un pays, on a découvert la subtilité. C'est un endroit où on a beaucoup de musique soufie, par exemple, donc on essaie aussi de montrer ça, et même quelquefois de faire le lien avec la musique électro, parce qu'en fait c'est ce que proposent en fait Patrick et Philippe. Ils ont développé le concept de la dune électronique dans le désert. Juste à côté, il y a les décors de Star Wars, donc ils ont développé ce projet pour montrer qu'il y avait un lien, justement, enfin de mettre en lien en fait cette musique qui est jouée localement et une musique plus contemporaine. Voilà, donc c'est un projet qui est très très ambitieux et en même temps de petite échelle, mais qui est en train de se continuer avec une association qui s'appelle le PAM Lab, où là l'idée c'est de rénover, d'aider à rénover la Palmeraie. qui est juste en dessous, il n'y a plus les trois niveaux de culture. J'y étais en fait pour le 1er janvier. On a planté les premiers tous ensemble, là encore, des arbres en fait dans la palmeraie. Il y a un beau projet qui s'annonce. On entend beaucoup parler de la Tunisie en ce moment, mais on sent vraiment que les gens ont envie d'agir et qu'il suffit en quelque sorte de faire pousser une colonne vertébrale, une structure, et que ça y est, on va pouvoir générer quelque chose d'intéressant et changer au moins dans cette partie qui est complètement reculée, redonner en quelque sorte une autre visibilité, changer ce système de tourisme bas de gamme et surtout la palmeraie c'est de l'agricole, donc retrouver une identité autour de l'agriculture avec la permaculture qui est déjà normalement dans les trois niveaux de structure de culture en fait dans la palmeraie d'origine, quelque chose qui est pratiqué mais là en le travaillant de façon un peu différente.
Vous n'êtes pas cantonné à la commande privée, puisque en 2015, vous avez eu une très grosse commande publique. Enfin, moi, ça me paraît très gros, parce qu'on vous a demandé de penser la rénovation, la réhabilitation d'une école, et même l'extension, une extension à cette école dans un village breton, oui. Des Côtes d'Armor.
Oui, là aussi, un tout petit village. Enfin, là, donc, je suis très contente d'intervenir dans un petit village, parce que j'aurais aimé le faire pour Normé, mais mon village d'origine. Mais en même temps, on a dans ce village pas grand-chose. Il n'a pas grand-chose pour lui, mais il a une chose formidable, c'est ses deux institutrices, Nolven, la directrice, qui pousse depuis 10 ans, qui recrée le lien social, parce qu'en fait, il n'y en avait pas vraiment quand elle est arrivée dans le village. Elle n'est pas du village, elle n'est pas des environs, qui se dit à un moment donné, mais je ne peux pas aller plus loin, là, déjà. Comment on peut aller plus loin avec ce projet? Et c'est en faisant appel donc au programme des nouveaux commanditaires de la Fondation de France qu'une médiatrice arrive sur le lieu et lui propose en fait de rénover l'école, ce qu'il n'avait pas osé proposer. En fait, bien sûr, il se trouve qu'il y avait un Algeco dans la cour et donc les petits avaient classe dans cet Algeco qui fuyait. Il faisait très froid l'hiver, mais personne ne disait rien, sinon ça voulait dire que l'école allait fermer. Les bâtiments de l'école sont donnés par la mairie et on est dans un contexte où il n'y a pas la possibilité de financer la rénovation de l'école. Donc ça dure comme ça depuis 30 ans. L'Algeco est là depuis 30 ans. Voilà, moi je ne savais pas que des situations comme ça pouvaient exister en France. Mais si, c'est la réalité. Malgré ça, les parents décident de quand même mettre leurs enfants, même s'ils ont une école plus près, parce que la qualité de la pédagogie est énorme. Et donc avec la Fondation de France et ce programme des nouveaux commanditaires qui donne la parole justement, pourquoi ça s'appelle nouveaux commanditaires? Parce qu'en fait l'idée c'est de construire ensemble le projet. On va, pendant 7 ans, non seulement empêcher la fermeture de l'école, mais au contraire en faire un projet exemplaire en reconstruisant 2 bâtiments additionnels à la rénovation des bâtiments existants et en articulant le projet autour de l'idée de partager l'école puisqu'on est dans un village et donc ça nous semble complètement naturel de faire en sorte que deux des bâtiments soient utilisés par les enfants pendant l'école mais qu'après tout le village puisse bénéficier d'espace pour se rencontrer, pour organiser des choses à l'intérieur. Voilà. C'est un projet qui est très beau puisqu'en fait il est porté par un village en entier, par les nouveaux commanditaires qui eux sont on va dire une vingtaine et qui en fait pour moi est que le début de quelque chose puisqu'aujourd'hui il fonctionne comme école mais ce qui est le plus beau c'est que dans ce petit village ils ont compris qu'ils pouvaient changer les choses. L'école est la première étape, je pense. Ils vont continuer, et d'ailleurs, ils l'ont fait. Ils ont commencé à recréer aussi un petit café, parce qu'il n'y avait plus du tout ni café ni commerce à l'intérieur du village. Ça leur a donné la chose la plus belle, ce pouvoir, en fait, de changer, de se prendre en main et de continuer à le faire. Et je pense que l'étape d'après, ce sera de faire aussi des habitats, toujours écologiques, parce que je précise que ce projet, il est à la fois global, mais il est à la fois très ambitieux. Et là, justement, on peut faire ce métier de designer à 100%, dans le sens où c'est un projet, une direction qui unit à la fois l'artistique, le social, le programmatique, qu'est-ce qu'on fait en fait dans ce projet-là, et puis l'écologique, puisqu'on est dans des bâtiments passifs. Voilà, donc Et ça, c'est notre rôle d'arriver à trouver l'articulation et ce qui fait la complexité de notre métier.
Et justement, comment vous travaillez, vous arrivez, parce que l'architecture scolaire, c'est très précis, ça implique des choix de pédagogie, c'est-à-dire qu'il faut parler pendant des heures avec, j'imagine, des institutrices qui, en disant qu'est-ce que vous voulez faire, comment vous travaillez.
Oui, non.
Ouais, vous passez du temps.
Oui, on passe beaucoup de temps. J'ai passé du temps dans l'école. Après, c'est quelque chose qui m'intéresse profondément, la pédagogie alternative. Donc, j'ai lu tout Maria Montessori, Freinet. Enfin, je connais énormément ça parce que depuis que j'ai fait l'ENSI, je me suis dit, mais toutes les écoles pourraient être comme ça, en fait, en quelque sorte.
Votre école
et pourquoi,
design.
Voilà. Et pourquoi c'est pas le cas? Mais je vois la subtilité et l'exemplarité de ce qui est proposé, en fait, dans cette école. Et moi, je fais simplement le support pour cette pédagogie. C'est pas plus que ça. Alors, peut-être un peu plus, mais en fait, tout est déjà là. Hein, il suffit juste, alors pourquoi pas, de le matérialiser par un petit support d'autonomie où on va classer en fait les différents classeurs et les enfants viennent tout seuls chercher leurs activités et s'installent dans les petits coins. Voilà. Et après, le mobilier, c'était juste l'idée de dire on va créer deux strates, la strate de l'attention et après en partie haute, la strate de l'imagination qui va permettre avec des perches d'accrocher les résultats des enfants. Tout ça pour quelque chose de très important, c'est-à-dire faire en sorte de proposer l'épanouissement des enfants, mais avec les parents. Parce qu'on ne peut pas avoir de système, on ne peut pas avoir un système à l'intérieur de l'école et un système qui serait différent chez les gens. Donc en fait, faire venir les gens le plus possible à l'école pour qu'il y ait une idée d'avancée commune sur, en quelque sorte, la transformation de ces enfants en citoyen, parce que ça va jusque là, c'est pas juste leur donner une autonomie, c'est juste leur donner des outils de prendre en main après leur propre développement dans un futur proche.
Et d'ailleurs, il y a un bâtiment commun, hein, qui est le bâtiment où, de la motricité, mais aussi la cantine.
La salle de partage, oui.
Qui est à cheval.
Oui, symboliquement, il est à cheval sur la petite place du village et sur l'école, pour bien montrer que, à la fois, l'école est ouverte sur le monde, elle est ouverte sur la réalité, c'est pas un cocon, hein, et en même temps, les habitants du village sont bienvenus, et ils le sont, et ils le font volontiers.
Pour conclure cette conversation, tous ces projets d'architecture que vous avez dessinés, comme disait Charlotte Perriand, ils vont vraiment de l'architecture, même de la rue, elle disait, jusqu'à la petite cuillère.
Oui.
Est-ce qu'il s'agit de la même chose, en fait, une petite cuillère et une école?
Oui, on peut mettre la même attention, en fait, dans une petite cuillère et une école. Tout est question de projection, en fait, de qu'est-ce qu'on attend de la vie, qu'est-ce qu'on veut proposer aux autres, tout simplement.
Demain soir, dernier volet de notre conversation, Nathalie Crasset. Nous parlerons innovation sociale, numérique et transmission du savoir et il s'agira toujours de design. Merci beaucoup.
Merci.
Et à demain.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Camille Jusa avec Nathalie Crasset. À voix nue. Réalisation Ghislaine David, prise de son Arthur Gerbeau, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.